Bonjour à toutes et à tous. Et oui, c'est bien nous. Nous sommes de retour. L'écho des Saules, la radio créée par les élèves du collège Les Saules en partenariat avec News FM, que nous remercions d'ailleurs chaleureusement. J'ai autour de moi tous les membres de notre atelier.
Bonjour.
Bonjour. Salut.
Salut. Salut.
Donc les anciens, Théo, Coralie, Laurine et moi-même. Et les nouveaux, Mathéo, Noémie, Nora Lou, Robin, Caïs, Antoine M et Antoine P. C'est le seul moyen de les distinguer. Premier épisode de l'année. Nous allons commencer par vous parler d'une affaire qui a fait grand bruit, l'affaire Sarkozy. Théo et Antoine M, à vous l'honneur.
Ce 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la peine de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. En tout, 8 personnes ont été condamnées, parmi eux, Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la République. Mais que s'est-il passé ?
Déjà, Nicolas Sarkozy a été condamné pour association de malfaiteurs, c'est-à-dire participer volontairement à un groupement en vue de préparer un crime ou un délit. Cette histoire a commencé en avril 2012 quand le journal Mediapart a publié un document attestant le financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, aurait fourni un RIB ou de l'argent libyen qui pouvait être déversé. À ce moment-là, la Libye était encore sous la domination du dictateur Muammar Kadhafi, qui est accusé de diverses violations des droits de l'homme. En 2011, le régime autoritaire tombe. Lors de ce procès, un nom revient souvent, celui de Ziad Takieddine, un homme d'affaires franco-libanais qui aurait servi d'intermédiaire et qui est devenu l'accusateur principal de Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur les financements. La somme exacte n'est pas encore définie, mais elle varierait des centaines de milliers d'euros aux dizaines de millions. Finalement, Nicolas Sarkozy a pris une peine de 5 ans de prison et 100 000 euros d'amende, ainsi que 5 ans d'inéligibilité.
Mais ça, c'était avant, car il est sorti de prison de la santé le 10 novembre sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin, le ministre de la Justice actuel. Il sera resté en prison un peu moins d'un mois avec de grands privilèges comme la permanence de 2 officiers de sécurité armés et d'une cellule individuelle avec douche, téléphone, etc. L'ex-président a même annoncé la sortie d'un livre, Le journal d'un prisonnier, qui aurait peut-être dû s'appeler Journal d'un évadé.
Mais alors, est-ce que vous pensez que Sarkozy a été trop privilégié? Et pensez-vous que c'est normal qu'un président aille en prison et qu'il en sorte si vite?
Du coup, je trouve ça juste un peu compliqué parce que à partir du moment que t'as une personne politique en ce moment qui fait des bêtises et qui est censée aller en prison, tout tourne sur le fait qu'il a été ou elle a été personne politique alors que ça n'a rien à voir. Et je trouve ça un peu dommage et pas vraiment dans les lois parce que ça remet en cause beaucoup de choses alors que c'est pas censé.
Donc pour toi, il a été trop privilégié?
Oui.
Okay.
Oui.
Bah, merci pour ces éclaircissements, Noémie, et merci pour les gars. On avait bien besoin de tout ça.
Juste, je crois que le livre, il est déjà sorti. Hein. Sarkozy, enfin, j'ai vu ça hier.
Oui, effectivement, il est déjà sorti. Et ça paraît même un peu bizarre parce qu'il est sorti très vite.
Bah moi, je pense qu'il a passé que quoi 20 jours en prison, il a pas eu le temps d'écrire beaucoup.
De la fight ChatGPT.
Oui, c'est vrai. 200 pages, je crois.
Que sa sortie de prison.
Et, non, mais il y a
200 pages.
Il y a eu des rumeurs, etc. Mais voilà. Comme quoi, il aurait pu, par exemple, commencer à écrire le livre avant d'aller en prison, et parce qu'il n'a jamais pu avoir le temps de tout écrire en prison. Et donc, il savait déjà qu'il irait en prison, qu'il se savait coupable, des choses comme ça. Voilà.
Mais il y a 200 pages. Hein. Enfin, il est un peu court quand même. Il y a juste 200 pages, du coup.
200 pages en 20 jours, faut.
Bah, il est pas...
Il est président, hein, il n'est pas écrit.
Il n'est pas resté une journée, enfin si.
Une vingtaine de journées, ouais. Un peu moins d'un mois.
Coralie, tu veux dire quelque chose?
Oui, sur le fait que les présidents écrivent, pas forcément parce qu'ils emploient des fois certaines personnes pour écrire leurs discours. Donc des fois, ils n'écrivent très peu.
Eh bien, merci les gars pour les précisions et merci aux autres pour avoir donné leur avis. On va continuer avec le sujet principal de cette émission, le sport. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler des animaux. Car malgré ce qu'on dit, courir après son chien pour récupérer ses clés, c'est quand même du sport. Commençons par écouter Laurine, qui a l'air d'avoir beaucoup de choses à dire sur la SPA. Laurine, c'est à toi.
Je vais vous parler de l'association SPA du Dauphiné. J'ai fait mon stage pour le diplôme du CFG à la SPA. J'ai appris le rôle de la SPA. Ils s'occupent des chiens et des chats abandonnés. Attention, si vous adoptez un chien ou un chat, il y a des responsabilités. Il faut s'en occuper, par exemple les sortir, leur donner à manger, changer la litière pour les chats. Si vous êtes prêt à vous occuper correctement d'un chien ou un chat, rendez-vous à la SPA pour adopter et faire un heureux.
Merci Laurine, je comprends mieux ceux qui aiment les animaux comme toi. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle?
Des frères et sœurs, ça compte?
Non, Noémie.
Et un père qui ressemble à un grizzly, ça compte?
Oh, ça balance. On va devoir le mettre dans le bêtisier.
J'espère que ton père n'écoute pas.
Du coup, j'ai trop de chance.
Moi aussi, j'aime bien les animaux. J'aime bien les écureuils, les renards. Moi, avant, dans la maison, j'avais 3 lapins. Ils sont morts. C'est dommage. Je préférais en ravoir. J'aime plutôt les chats que les chiens.
Merci, Antoine. Quelqu'un d'autre ?
Moi aussi, j'avais un chat. Malheureusement, comme Antoine, il est mort.
Et vous êtes en train de plomber l'ambiance.
Mathéo ?
Moi, j'ai un chien. Elle s'appelle Talula, très mignon. Mais je voulais vous parler des signes. C'est quelques signes qui s'appellent les signes d'apaisement, je crois. Et en gros, qui servent beaucoup pour comprendre les chiens, leurs envies, leurs besoins, ce qu'ils veulent faire. Donc, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube pour apprendre.
Pourquoi c'est important de le savoir ?
Parce que ça peut donner des avertissements si le chien n'est pas content. Eh ben, il va probablement le dire grâce à des signes. Faites attention à ces signes et occupez-vous bien de vos animaux, c'est important.
Nora Lou, je crois que tu voulais parler tout à l'heure.
Moi, j'ai jamais eu de chien ni de chat parce que j'ai le malheur d'habiter dans un appartement. Mais mes grands-parents ont eu 8 chats au total, mais ils sont tous morts un par un. Mais on ne va pas plomber l'ambiance. Mais il reste un chat qui a survécu. Et en vrai, c'est trop sympa les chats. Faut juste éviter de les faire crever, quoi.
Oui, Caïs ?
Moi, du coup, j'ai un chat aussi. Bon, lui, au moins, il est vivant.
Ça c'est fait, ça aussi. Ah oui, on va continuer vers les arts. Oui, je sais que j'aime faire pourroter les auditeurs, mais maintenant, place à Coralie et sa rubrique sur le théâtre.
Pour commencer, le théâtre, c'est de l'art. De l'art parfois très sportif et épuisant, mais c'est bel et bien de l'art. Mais avant de rentrer dans les détails, allons d'abord dans le passé, lors de la création du théâtre entre le 5e et le 6e siècle, avant Jésus-Christ. Les pièces de théâtre étaient tout d'abord faites en l'honneur du dieu Dionysos, dieu du vin, de la semence et de la fertilité de la vigne, de l'allégresse ainsi que du théâtre. Il réside dans le mont Olympe, mont qui, selon la légende, abrite tous les dieux grecs. Les pièces de théâtre les plus connues sont bien sûr l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et bien sûr, ce sont au départ des pièces de théâtre. Et oui, certains pourront penser que c'est juste de la poésie ou des trucs comme ça, mais non, c'est du théâtre. Mais ces deux-là ne font pas partie des premières pièces de théâtre, car elles ont été faites au 8e siècle avant Jésus-Christ. Or, les Perses ont été faites en moins 472 avant Jésus-Christ. Bref, le théâtre peut se trouver très épuisant. Vous vous dites peut-être que le théâtre c'est simple, faut juste apprendre des textes par cœur. Bah non, en fait. Moi, j'aimerais bien vous voir en train de vous forcer à pleurer devant toute une salle de spectacle. La pression et tout, c'est horrible. Et puis, il faut parler bien fort pour que tout le monde entende, mais pas trop non plus pour pas se casser la voix. Enfin bref, c'est un vrai calvaire. Mais bon, j'en ai marre de parler d'histoire, alors vu que je fais du théâtre depuis maintenant 3 ans et 4 mois, je peux parler d'expérience personnelle. Déjà, pour commencer, mon groupe de théâtre est juste incroyable. L'ambiance est super, pas de moquerie pour faire mal, juste pour blaguer, pas de discrimination, une super entraide et une ambiance mais juste incroyable. En plus, pour moi, l'endroit où je fais du théâtre, c'est comme ma deuxième famille. La remplaçante de ma prof de théâtre un jour nous a dit « Franchement, je vous admire de faire du théâtre. Déjà, vous avez les couronnes de venir ici sur scène parce que dès que vous venez sur scène, vous vous mettez à nu. Tout en gardant vos habits bien sûr, mais quand vous montez sur scène, vous montrez des choses que l'on ne voit pas dans la vraie vie. Vous devez faire des choses pour faire comprendre au public certaines émotions. Il faut puiser dans ces émotions au plus profond de son être. Et c'est très épuisant de faire ça. Et ce discours, j'avoue, m'a marqué. Enfin bref, pour conclure, j'adore le théâtre. Je sais pas si vous l'aviez compris, mais bon, je vais passer le bâton de parole à Lilou.
Merci Coco. Je sais pas comment est-ce que je ferai le coup pour tenir le coup à ta place. Bon, ça doit être génial dans tous les cas. Je pense que je ferais bien de m'inscrire. Tu fais du théâtre où déjà ?
Au CLC, et ben.
D'accord. Bon, j'irai voir au CLC un de ces jours. Je vois Nora Lou qui trépigne d'impatience. Alors, je vais la laisser parler. C'est quoi ta chronique déjà ? Ah oui, bien sûr. Le cirque.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer ce qu'est le cirque et surtout ce qu'il n'est pas. La plupart du temps, quand je demande ce qu'est le cirque, tout le monde me dit ce n'est pas du sport. C'est juste mettre un nez rouge et lancer des balles. Il faut que ce soit clair dès le début. C'est faux. Le cirque est victime de beaucoup de stéréotypes. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un stéréotype, c'est le synonyme de cliché. Et si vous ne connaissez pas ce qu'est un synonyme ou un cliché, cherchez dans un dictionnaire, car je n'en suis pas un. Beaucoup de personnes disent que le cirque n'est pas un sport, que ce n'est pas assez physique. Et pourtant, croyez-moi, après 2 heures de cirque, on ne pense qu'à 3 choses. Manger, se doucher et surtout dormir.
Un jour, quelqu'un m'a demandé si, dans mon cours de cirque, j'apprenais à dompter des lions. Si vous pensez à la même chose, je suis désolée de vous annoncer que vous êtes restée dans les années 80. Il reste très peu de cirque avec des animaux. Et moi, je trouve ça rassurant qu'il n'y en ait presque plus, car les animaux n'étaient pas toujours très bien traités, voire presque jamais. Donc, je suis désolée de vous annoncer que vous ne verrez sûrement plus de lions ni de tigres au cirque. Beaucoup de personnes disent que le cirque est un sport de filles, ou que certaines catégories sont pour les filles et les autres sont pour les garçons. Par exemple, certaines personnes disent que les clowns sont des garçons et que les personnes qui font du trapèze sont des filles. Ça peut vous rassurer, c'est faux. Merci d'arrêter de dire ces préjugés et ces stéréotypes, qui sont, j'espère que vous avez compris, faux. Pour finir en beauté, je vous propose un petit quiz. Première question. Combien a-t-il d'objets différents pour jongler ?
Je dirais 3.
Ok, Coralie mise sur 3. Evan, tu dirais combien ?
5.
Moi, je dirais qu'il y a les balles, les cerceaux, les massues,
les couteaux.
Comment ?
Quoi ?
Oui, il y a des...
Continue.
Il y en a qui peuvent jongler avec des couteaux.
Ah bah d'accord. Et il y a aussi... comment ça s'appelle déjà ?
Un peu comme des quilles aussi, il y en a.
Ça s'appelle des massues. Et bah après, j'ai plus d'idées, quoi.
Moi, je trouve que tout ce qu'ils ont dit, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent au cirque. Mais finalement, je pense qu'on peut jongler avec à peu près tous les objets de taille correcte. Hein. Finalement, du moment qu'on peut les lancer en l'air et les rattraper, c'est du jonglage. Et voilà... Ça peut se faire avec plein d'objets.
Diabolo, balle, foulard, cerceau, chapeau, bâton du diable, il y a plein de trucs. Je pense que ouais, on est bien au-dessus de 10.
Eh bah, vous avez tous raison, un peu tous tort. Celui qui se rapproche le plus de la vérité, c'est Théo. Bravo. En fait, il y a des milliards d'objets. On peut jongler avec tout. Mais j'ai quand même cité les plus connus. Le nombre exact d'objets de jonglerie varie selon les disciplines. Mais les plus courants sont les anneaux, les balles, le diabolo... Mais on peut aussi compter des bâtons, des foulards, et on peut mettre des objets enflammés. Mais il y en a un des milliards d'autres, pas la peine de compter, je ne te vise pas du tout, Robin. En pratique, il existe de nombreuses catégories et davantage d'objets spécifiques selon les techniques et les artistes. Deuxième question, combien a-t-il d'agrès ? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des objets qui sont en l'air, par exemple le trapèze.
Moi, je dirais... Je pense que des aériens, donc des agrès aériens, mon école de cirque en a au minimum... 4, va y avoir le tissu, le cerceau, le trapèze et la corde, corde lisse du coup. Mais je pense qu'on doit être sur 7 ou 8.
Ok, quelqu'un d'autre.
Mais j'ai un truc à dire. Hein? Du coup, c'est quoi le nombre exact de trucs pour jongler ?
Il y en a une infinité.
Ah, donc il y en a pareil, une infinité, enfin il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai cité les plus connus. Il y a la corde, on se pend dessus, on fait de belles figures. Il y a le cerceau aérien, c'est un sort de cerceau qui tient en l'air et on fait des figures. Le tissu aérien, c'est un grand bout de tissu qui sert à faire des figures et comme la corde, je peux monter assez haut. Il y a le mât chinois, celui-là, il n'est pas très connu, mais je l'adore. C'est un mât, une sorte de gros tube noir et on peut grimper dessus pour faire de belles figures. Il y en a qui disent, mais ça je suis pas trop d'accord, que le trampoline est un agrès. Bon. Donc je l'ai mis au cas où, mais c'est un trampoline où on peut faire des saltos, des trucs comme ça. Et pour t'amener, j'ai mis mon petit péché mignon, le trapèze. On peut faire plein de choses avec les trapèzes, il y a plein de sortes de trapèzes. Il y a le trapèze triangle, le double trapèze, le trapèze volant. Voilà. Et on peut se jeter d'un trapèze et attraper les bras d'une autre personne, ou on peut faire des figures.
Juste. On peut aussi attraper les pieds. Vous êtes sûr que le trapèze volant, c'est dans les lois de la gravité, là ? Parce que franchement, dans le
prénom... Alors, un trapèze volant, c'est juste tu te balances un trapèze et tu te jettes dans l'air et quelqu'un est censé te rattraper.
Ah ouais.
Par les pieds. Par les pieds, merci Robin.
Et si jamais quelqu'un ne te rattrape pas, comment tu fais ?
Tu
meurs.
Souvent.
On avait dit qu'on a arrêté de plomber l'ambiance, s'il vous plaît.
On ne plombe pas l'ambiance, c'est pas bien.
Souvent, dans les chapiteaux ou dans les écoles... De trapèze volant, il y a des filets. C'est fortement conseillé, on va dire. Après, ceux qui veulent pas, tant pis pour eux.
Sinon, comme a dit Théo, sinon la personne rejoint les chats. Non, il rejoint Tupac.
Bon,
je vais vous poser la troisième et dernière question. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Ça m'intéresse.
J'ai retenu que le cirque, déjà, c'est pas... Il n'y a pas que des animaux. Mais déjà, j'aimais pas le cirque parce que souvent on disait que beaucoup d'animaux se faisaient maltraiter, donc c'est pour ça que j'ai jamais allé dans un chapiteau ou quoi. Et moi, je pensais beaucoup qu'il y avait des animaux. Et j'ai fini avec les animaux.
Mathéo, t'es resté dans les années 80, désolé.
Ok, quelqu'un d'autre ?
La loi interdit les animaux.
Oui, c'est vrai, maintenant la loi interdit les animaux dans les cirques. Coralie, tu veux dire quelque chose ?
1. Que le cirque, c'est victime de beaucoup de stéréotypes.
On a fini 2. Par comprendre.
Oui, mais elle a dit qu'est-ce que vous avez retenu, donc... 2, du coup, qu'il y a beaucoup de types de jonglage. Enfin, on peut jongler, en fait, avec tout du moment qu'on sait jongler. 3, qu'il y a beaucoup d'agrès en tout. Enfin, pas que aérien, je pense, parce que le cirque, je pense que ça comprend beaucoup d'agrès. Et voilà, je crois que j'ai terminé.
Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas la chance de parler avec nous, je vous ai fait un mini récapitulatif. Alors, premièrement, bravo Coralie, le cirque est victime de beaucoup, beaucoup de stéréotypes. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en faire. Deuxièmement, au cirque, il n'y a plus d'animaux. En tout cas, presque plus. Il y a des endroits où il reste des mini-chevaux, mais ça se fait presque plus. 3. Au cirque, il n'y a pas de catégorie fille ou de catégorie garçon. Testez tout ce que vous voulez. 4. Le cirque, c'est de l'art et du sport. 5. Le cirque, c'est incroyable. Et il y a 4 écoles pas loin de Grenoble. Et il y en a aussi partout en France. Alors, si ça vous intéresse, essayez. Merci de votre écoute et j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais passer le micro.
Et
oui.
Aussi, j'aimerais dire quelque chose. Pour tout le monde, ceux qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas, tentez ce que vous voulez, que ce soit pour filles ou pour garçons, pour moi, il n'y a pas de ça. Et n'écoutez pas ce que les gens jugent de vous ou ce que les gens pensent de vous. Et faites ce que vous voulez. Mais allez à l'école quand même.
Bah, merci Mathéo, c'était une très belle citation. Bon, je passe le micro à une de mes camarades.
Eh bien, merci beaucoup à Mathéo pour cette phrase très philosophique. Et toi, Noralou, c'est quoi ta spécialité ?
Alors, ça ne compte pas, parce que j'ai fait du cirque pendant 7-8 ans. Et, 7 ans, 6 ans. Ouais, j'ai fait du cirque longtemps. Et après, j'ai arrêté une année, donc j'ai perdu pas mal de choses. Mais avant, c'était le trapèze. Après, c'est pas une spécialité, mais sur une boule, je savais marcher, sauter, danser, voilà. Et je suis en train d'apprendre, grâce à mon amie qui va ensuite vous le présenter, le monocycle. Et en vrai, c'est trop cool.
Et elle a fait sa première grande traversée de 10 mètres mardi.
Bravo!
Bravo, Noralou! Ouais,
Noralou, c'est bien! C'est bien, s'il continue, entraîne-toi!
S'il vous plaît, j'ai ouï dire que d'autres personnes dans cette salle ont fait du cirque. Théo, s'il te plaît.
Alors moi, c'est vrai que je fais du cirque depuis juste cette année. Voilà, donc je suis un débutant. Mais depuis que j'ai commencé, j'ai pu essayer plein de choses. Ce que j'en ai retenu, c'est que j'aime beaucoup le jonglage globalement et le diabolo surtout. Aussi la boule, comme dit Noralou, j'ai bien aimé, c'est sympa. Et voilà, j'espère en apprendre plus... dans les semaines à venir.
Théo, t'as oublié quelque chose que t'as essayé et que t'as bien aimé?
Le monocycle.
Eh bien, tu es.
Et j'ai eu la chance d'essayer le monocycle que je referai plus tard.
D'accord. Noémie a l'air d'être...
Je vais les triper.
Je vois que Noémie n'en peut plus, alors vas-y, dis-nous quelles sont tes spécialités, parce que ça m'étonne.
Exactement.
Alors, ma grande spécialité sur laquelle je pense j'ai un bon niveau, c'est le
un petit niveau.
C'est le monocycle. Et après, je fais beaucoup de boules. Je fais une année de cerceau, une année de diabolo. Ouais, il y a des années un peu par thème. Mais sinon, monocycle en ce moment.
Elle est excellente.
Merci Noralou. Donc moi aussi, je fais un peu de cirque. J'ai commencé cette année comme Théo. On est tous les quatre dans le même club à Ébain. Mes spécialités, je ne vais pas dire que j'ai de spécialité parce que je me trouve aussi nulle dans tous les domaines. Mais là, je sais que si je dis ça, il y en a deux.
Alors,
qui
elle
est très forte en tissu.
Et en trapèze.
Je sais juste grimper
et à la corde.
Bah oui, ça fait 11 ans que je fais du cirque. Je ne sais même pas grimper au tissu. Alors, bon. T'es très forte.
Ce débat est clos, Noémie. Donc, j'ai commencé à apprendre le trapèze, un peu les boules, mais j'arrête pas de me casser la figure, donc je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. J'ai eu la chance de beaucoup m'entraîner avec Théo au Diabolo, donc c'est un très bon professeur qui m'a permis de beaucoup avancer. Et je me suis un peu exercée au monocycle, mais j'arrive pas encore à lâcher les murs. Voilà. D'ailleurs, oui, c'est bien ce qu'on a dit, Noémie va pouvoir approfondir le sujet du monocycle. Et j'ai entendu dire qu'elle nous avait prévu un discours complet, hein, mais bon. Je lui laisse la parole.
Le monocycle, le vélo et une roue, t'en fais ? Faut avoir de l'équilibre, non ? Tu fais du cirque ? T'es un clown ? Sont les premiers mots qui viennent à l'esprit des gens quand je leur dis que je fais du monocycle. Je fais du monocycle depuis bientôt 6 ans et j'en ai marre de ces clichés. Donc, j'ai fait cette chronique pour changer votre perception du monocycle. Bon, certes, j'ai aussi fait cette chronique parce que je voulais vous partager cette expérience incroyable que j'ai eu la chance de vivre cette année. Je suis allée à la Coupe de France de monocycle et je voulais vous faire part de cette expérience incroyable. J'y suis allée avec d'autres personnes de mon club Monogre. Monogre est le club de monocycle de Grenoble, entre parenthèses, meilleur club du monde, à mes yeux. Ce club est de plus en plus présent sur les compétitions, notamment en monohockey. En monohockey, oui, ça existe, où les monocs sont champions de France cette année et vu leur niveau, ils vont le rester un moment. Donc, la CFM 2025, organisée par le club Cyclone, s'est déroulée à Sionzier, à côté de Cluses, en Haute-Savoie, pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Tout au long de la semaine, les non-participants comme les participants ont pu découvrir les nombreuses disciplines du monocycle regroupées en 5 grandes familles. Urbaine, le tout-terrain, le freestyle et les sports collectifs. Basket et hockey, qui est ma discipline préférée. Cette année, à la CFM, il y avait aussi une course de côte. D'ailleurs, si vous voulez vous faire peur, je vous conseille de regarder les records mondiaux ou les vidéos. Entre parenthèses, les vidéos de cette année sont commentées et certains commentaires sont très très drôles. La prochaine grosse compétition de monocycle est les championnats du monde appelés Unicon en 2026. Ils se dérouleront en Autriche.
Eh bien, intéressant, même si je trouve un peu fou de faire autant de trucs différents avec une simple roue équipée d'une selle. Ceux qui sont autour de cette table, est-ce que vous aviez déjà entendu parler du monocycle et qu'est-ce que vous en pensez ?
Nora Lou, arrête de faire...
Moi, oui, j'ai déjà entendu parler du monocycle en primaire grâce à Noémie, la championne du monde, l'excellence.
Je sens que je vais pas tenir cette année avec toutes ces personnes qui sont en train de me dire que je suis super, super forte alors que je suis absolument pas forte.
Elle est excellente.
Elle se dévalorise.
Du coup, elle se sous-estime, mais franchement, elle est très forte au monocycle. Franchement, j'avais jamais vu quelqu'un faire du monocycle avant elle. Et bah, c'est très cool et j'aime bien la voir faire parce que moi, je sais pas faire et je sais pas. Ça m'attire pas trop parce que j'ai vu quelques vidéos où des gens se cassaient la figure en monocycle et bah parfois ça peut être très grave et du coup et bah ouais c'est ça a l'air cool mais que quand les gens le font et pas moi.
Moi une fois j'avais fait un stage de cirque à Ebain pendant juste un week-end donc c'était pas beaucoup. J'avais essayé justement le monocycle. J'avais réussi, j'avais tenu pendant 3 secondes, mais voilà. C'est dur.
Ok, Nora Lou, tu voulais dire quelque chose ?
Moi, j'avais déjà entendu parler du monocycle parce que ça fait très longtemps que je fais du cirque. J'ai déjà essayé une fois, je me suis cassé la figure. J'ai vu des gens faire ça en arrière, sans lacets et tout. Je me suis dit que c'était des tarés. Bon, je me le dis toujours, mais maintenant, avec une bonne impression. Puis ensuite, j'ai rencontré Noémie. J'ai très vite compris qu'elle était ma boule sur un monocycle. Bon, après, ma boule tout court, mais surtout sur un monocycle. Mais gentiment, ma boule. Hein. Donc oui, j'apprends à faire du monocycle. J'apprends un tout petit peu à lâcher le mur petit à petit. Mais ouais, c'est vraiment difficile. Et quand elle dit qu'elle n'est pas bonne, elle est quand même plus bonne que tous les profs de cirque qu'elle a rencontrés, étant donné qu'il ne peut rien lui apprendre.
Bah moi je connais le monocycle grâce à Noémie parce que des fois elle venait à l'école élémentaire en monocycle, elle repartait en monocycle. Bah des fois je la voyais avec son club à Grenoble, des fois j'allais la voir. Mais je la connais beaucoup, moi j'en ai fait un petit peu mais j'ai jamais réussi.
Donc, on a vu le monocycle et ses variations, notamment le monobasket. Eh bien, on enchaîne tout de suite avec la rubrique de Mathéo.
Bonjour, je voudrais vous parler d'un basketteur, Victor Wembanyama, au Chelsea. Victor Wembanyama est un joueur international français de basketball évoluant au poste d'ailier fort et de pivot pour les Spurs de San Antonio en NBA. Mesurant 2,24 mètres, il est avec Zach Edey l'un des joueurs les plus grands évoluant en NBA. Sa blessure a été très compromettante pour sa carrière selon cet article. Les Spurs ont annoncé lundi 17 novembre que Victor Wembanyama souffrait d'une élongation du mollet gauche, contracté lors d'un match de vendredi face au Golden State. Un coup dur pour l'intérieur français de 21 ans qui va manquer au minimum 2 à 3 semaines de compétition. Après 3 années à l'entente le Chelsea Versailles 78 Basket, de 2011 à 2014, il arrive au club de Nanterre 92 à l'âge de 10 ans. Il a passé son adolescence à Nanterre de 2013 à 2021, entre le lycée Julio Curie et la résidence de Chenzi, du palais des sports Maurice Thorez. Il y a joué un jour à l'entraînement contre Dominique Malonga aux alentours de 2016-2017 ou 2017 et a été surclassé en cadet, se montrant attentif aux autres et travailleur. Dans un club dont l'équipe était déjà passée de départementale à l'élite.
Merci Mathéo. Donc toi, est-ce que tu pratiques le basket ou pas ?
J'en ai pratiqué, mais sans être en club. Mais j'en ai pratiqué un peu parce que ma mère m'avait acheté un ballon de basket que je n'avais pas demandé, mais oui, il était très bien, jusqu'à qu'il se fasse manger par mon chien. Et du coup, j'ai fait beaucoup de choses avec. Je me suis bien amusée et on a fait des beaux matchs.
D'accord.
Moi, j'en ai fait pendant 5 ans. Donc là, je suis en pause parce que j'ai décidé de faire un autre sport. Le Lai Moi, c'est un mélange de Kung Fu et de boxe thaïlandaise. Du coup, si jamais vous voulez faire du basket, je vous conseille d'aller au Club des Bains. C'est vraiment un super club. Il y a une très, très bonne ambiance. C'est au gymnase Fernand Fèvre, juste devant l'école Bel Air.
Donc, on va continuer tout droit vers les sports de balle avec le tennis. Qu'est-ce qu'ils trouvent tous au babal ? Bon, allez, je vous laisse la parole. Antoine, Théo et Evan ?
Ouais, c'est bien ça. Bah, pour tester vos compétences sur le tennis, nous vous avons préparé un petit quiz. Première question, quel est le joueur qui est surnommé le roi de la terre battue ? Réponse A, Novak Djokovic. B, Rafael Nadal. Réponse C, Gaël Monfils.
Novak Djokovic ?
Oui, c'est bien ça. Bah, dis donc, la réponse a bien été rapide.
Toujours dans les questions faciles, la deuxième question. Alors, quand tu frappes la balle dans l'air avant qu'elle rebondisse au sol, cela s'appelle, réponse A, un smash.
Smash.
C'est faux.
Non, c'est pas ça.
Oh, réponse B, une volée. Réponse C, un lift.
C'est une volée.
Exactement, c'est une volée. Voilà, qui permet d'accélérer le jeu et de surprendre l'adversaire en renvoyant la balle plus vite.
Question moyenne. Combien y a-t-il de tournois du Grand Chelem dans une saison de tennis ? Réponse A, 3. Réponse B, 4. Réponse C, 5.
4.
Bonne réponse, c'est 4.
Deuxième question moyenne. Quel est le tournoi du Grand Chelem qui se joue sur gazon ? Bah, c'est de l'herbe synthétique. Wimbledon, Roland-Garros ou US Open ?
Wimbledon.
Ouais.
On passe cette fois aux questions difficiles avec la cinquième question. Quel joueur a été classé numéro 1 mondial le plus longtemps dans l'histoire de l'ATP ? Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Andy Murray ?
Rafael Nadal.
Rafael Nadal ou Djokovic ? Choisissez.
Djokovic. Nadal.
Donc qui a raison ?
Eh bien, c'était Djokovic. Dans le jargon du tennis, comment s'appelle un 6-0 ? Un donut, un beagle ou un cookie ?
Un donut.
Un beagle.
T'as les réponses en toi.
Un beagle. Là, je suis trop fort.
Et bah, c'était Mathieu. Bien un beagle. Bravo, pas Antoine.
Merci pour ce petit jeu, même si je n'y ai rien compris. Bon, allez, ça suffit, les jeux de balle, vous allez me rendre malade. Je vais plutôt vous parler de mon sport préféré, l'escalade. L'escalade, aussi appelée grimpe ou varap, est un sport qui sollicite pratiquement tout le corps et qui développe des qualités telles que l'endurance, la force, la souplesse, l'agilité et l'équilibre. C'est également une épreuve aux JO depuis 2020. Vous saviez que la première véritable ascension s'est faite le 28 juin 1492, tout près de chez nous, au Mont Aiguille, dans le massif du Vercors. Pour vous donner une idée, 1492, c'est quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ça date pas d'hier. Le matériel de l'escalade est souvent assez encombrant. Un baudrier, des cordes, des mousquetons, des dégaines, un ou plusieurs systèmes d'assurage, une longe, des sangles, de la magnésie, un casque si on grimpe en extérieur, et bien sûr, les chaussons, qui doivent être très serrés. On dit régulièrement que l'escalade est un sport douloureux, alors arrêtez de couiner en disant que vous avez mal aux pieds. Parlons maintenant des différents types de grimpes. Il en existe trois grandes catégories. La montée en moulinette, où la corde passe dans le relais au sommet de la paroi et où le grimpeur est tiré vers le haut en cas de chute, et qui est relativement facile. La montée en tête, où le grimpeur clipe la corde dans les dégaines tout au long de sa montée et qui demande beaucoup, beaucoup de pratique. Et le bloc, où les murs font moins de 4 mètres avec d'énormes tapis en dessous et où le grimpeur peut évoluer sans avoir besoin d'être encordé. Ensuite, on peut savoir si une voie est dure en fonction de sa cotation. Un chiffre avant une lettre, entre A et E, comme 4C par exemple. Plus le chiffre est grand, plus la voie est dure. Et plus la lettre est proche de E, plus la voie est dure aussi. Par contre, le chiffre est plus important que la lettre. Ainsi, une voix 5A sera plus dure qu'une voix 4C. Et parfois, un petit plus vient se glisser près de la lettre, ce qui indique une voix encore plus dure, mais pas suffisamment pour atteindre la cotation du dessus. Inversement, pour un petit moins. La voix la plus dure grimpée à ce jour est cotisée en 9C. C'est vraiment énorme. J'aime beaucoup ce sport car c'est le seul qui me fatigue vraiment. Ma spécialité, c'est l'utilisation de techniques comme l'adhérence, les crochets ou les changements de poids, puisque, il faut bien l'avouer, je n'ai que très peu de force et qu'il me faut compenser autrement. Bon allez, je crois que je vais m'arrêter là, sinon les auditeurs vont s'endormir. Et j'imagine que vous avez tous entendu parler du film F1, dont Léo nous avait donné la date de sortie dans notre deuxième podcast. Eh bien, Robin, Caïs et Théo semblent avoir envie d'en parler. Je leur cède donc la place.
Alors, pour ce débat, la question principale était, finalement, est-ce que la Formule 1 évolue vers le mieux ou finalement, est-ce qu'elle perd un peu de son charme d'antan? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis?
Du coup, moi, je pense que la Formule 1 va de mieux en mieux parce que l'année prochaine, il y aura les nouvelles réglementations et du coup, toutes les cartes vont être redistribuées et du coup, peut-être que ce sera mieux que cette année. Et aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que cette année, il n'y a pas beaucoup de suspense. Mais moi, je trouve qu'avec la remontée de Max Verstappen, ça fait jusqu'au dernier Grand Prix en plus, justement. Ça donne un peu plus de peps.
Et Robin, toi, qu'est-ce que tu en penses?
Pour moi, cette saison n'a pas été super excitante. Parce que souvent, dès le début des Grands Prix, on voyait soit les McLaren, soit les Red Bull, soit d'autres écuries partir en tête avec pas mal de secondes d'avance. Pour moi, c'était un peu ennuyant. Bon, hormis, comme Caïs, je le disais, la remontée de Max Verstappen dans les points, avec 12 points d'écart entre Norris et lui, et 16 points d'écart entre Piastri et Norris. Je pense que le dernier Grand Prix va être très très intéressant.
Quant à moi, je trouve que la F1 perd un peu, finalement, de son charme qu'elle pouvait avoir avant. Alors évidemment, je dis ça en tant que fan, j'allais dire de longue date, pas vraiment, mais qui connaît la F1 d'avant. Et donc, je trouve que, par exemple, au niveau des certains aspects qui étaient un peu légendaires à l'époque, on a perdu de ça. Par exemple, les batailles légendaires de plusieurs années entre Alain Prost et Ayrton Senna, par exemple. Et certaines voitures aussi qui ont été assez légendaires, comme la Ferrari F2004 de Michael Schumacher. Ensuite, je trouve que également, il y a, avec des avancées technologiques, une perte de charme des moteurs qui, par exemple, en 1950, au tout début de la F1, c'était des V16, donc des gros moteurs avec beaucoup de cylindrées qui faisaient du bruit, etc. En 2000, on était toujours autour des V12. Et en fait, depuis 2014, on est passé à des V6, donc des beaucoup plus petits moteurs, mais qui, grâce à des avancées technologiques, développent la même puissance. Et c'est passé depuis 2014 en moteur hybride. Donc à peu près 80% thermique et 20% d'électrique. Alors, c'est plus écologique, mais ça perd un peu de son charme. Et donc des moteurs qui font moins de bruit, qui sont moins reconnaissables, etc. Ensuite, avant, il y avait beaucoup des tentatives de création de nouvelles technologies, d'essayer de passer dans les trous du règlement, etc. Comme en 2009 avec l'écurie Brown GP, qui a développé un double diffuseur, qui, grâce à cette invention, sortie de nulle part, a gagné 2 saisons d'affilée. Mais bon, cette invention a été bannie parce que trop forte.
Ferrari en 2019.
Oui, aussi, voilà. Et donc, il y a plusieurs exemples. Mais plus ça avance dans le temps, plus le règlement est strict et plus toutes les voitures sont très ressemblantes, avec plusieurs voitures, même de plusieurs écuries différentes, ayant le même moteur, le même châssis, etc. Mmh. Et qui se ressemblent, qui font la même taille, les mêmes pneus, qui sont tous produits par Pirelli ou Michelin actuellement. Je confonds avec le rallye.
Je crois que c'est Michelin.
Je crois que c'est Michelin, oui. Mais aussi, dans un sens, ça va vers le mieux pour la population globale, car avec l'essor des technologies numériques, la F1 est devenue beaucoup plus accessible et interactive, en attirant un public beaucoup plus large. Voilà, donc par exemple, la F1 représente 87 millions de téléspectateurs en moyenne par Grand Prix dans le monde en 2023, mais seulement 22 millions en 2011, donc il y a une réelle augmentation des téléspectateurs.
Et comment tu l'expliques, ça, à ton avis?
Alors,
le
déjà,
bouche-à-oreille. Pas mal de gens doivent parler un peu de la F1, c'est des courses de voitures, quoi. C'est comme le 24 heures du Mans, mais sauf que cette fois-ci, c'est toute l'année et ça va aussi vite.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit phénomène, parce que moi, je ne connais pas du tout ce milieu, mais j'ai beaucoup entendu parler de documentaires
effectivement, sur Netflix. De séries, par exemple, Drive to Survive et du film, comme Lilou nous a parlé.
Moi, j'ai entendu parler de Charles Leclerc, tout ça, grâce à Netflix, en fait, avec les documentaires.
C'est ça. Et alors, c'est vrai que du coup, grâce à ça, et donc, effectivement, avec les nouvelles technologies, les sorts du numérique, etc., c'est devenu plus accessible et c'est plus médiatisé pour ça attire plus de gens. Après, est-ce que c'est bien ? Oui, évidemment, parce que les séries, les films, c'est quelque chose qui plonge les gens dedans, ça attire des téléspectateurs, c'est bien. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des idées reçues qui sont montrées dans les films et qui ne sont pas forcément réelles. Donc voilà, pas non plus faire trop confiance.
T'as des idées, des exemples de trucs qu'on verrait dans les films ?
Alors déjà, rien que pour le film, on a Brad Pitt, hein, l'acteur principal, c'est bien, ça fait de l'audience. Mais jamais une personne de cet âge-là ne pourrait concourir en Formule 1 à partir de 30 ans, c'est la retraite.
Ah ouais ?
Ah, j'exagère. Bah, on a des
Les réflexes peuvent rester, mais certains réflexes peuvent partir.
Voilà,
par exemple, souvent, sur les départs, les pilotes mettent 0,2 secondes.
Ouais.
Aussi quelque chose aussi qui me scotche vraiment, mais j'hallucine, c'est quand une voiture devant part en tête à queue ou qu'elle sort trop loin et que c'est sous la pluie par exemple, les pilotes voient la voiture au dernier moment et arrivent à l'esquiver.
Ah oui, j'avais vu une vidéo où c'était, je sais plus c'était en quelle année, mais en tout cas c'était à Monaco dans le tunnel.
Ouais, c'est Isaac Hadjar qui a vu un autre pilote qui était ralenti.
Oui, j'ai vu aussi cette vidéo et aussi c'est sur un Grand Prix qui a été désastreux. Je sais plus quand est-ce que c'était. Non, mais je sais plus quand est-ce que c'était. Il y avait vraiment énormément de crash.
Ah oui, c'était pas en 2003, je crois. J'ai vu une vidéo.
Je sais plus, mais voilà. Et tout ce que je sais, c'est qu'il y en a vraiment pas eu beaucoup de pilotes qui sont ressortis vivants. Enfin, en voiture, n'est pas ressorti vivant.
Bah, par exemple, Ayrton Senna. Ayrton Senna est mort en course, par exemple.
Ouais, voilà.
C'est une grande légende.
Moi, je voudrais parler d'un truc aussi, c'est les nouvelles réglementations.
De 2026 ?
De 2026. Oula, par exemple, le changement de DRS, le changement de moteur, le changement de voiture, surtout. Ils veulent rétrécir les voitures. Donc, elles passeraient de 3,6 m à 3,4 m. Et en largeur, je ne sais plus vraiment. Et aussi, ils ont modifié un Grand Prix. Alors, je ne sais plus lequel ils ont enlevé, mais à la place,
Imola, ils ont enlevé Imola.
Non, ce n'est pas Imola. Non, ce n'est pas Imola. Mais à la place, ils ont mis le Grand Prix de Madrid, un nouveau Grand Prix. Du coup, il y aura un nouveau DRS qui vont supprimer le DRS à l'aileron arrière. Donc, l'aileron arrière ne pourra plus s'ouvrir, mais juste s'abaissera. Il n'y aura pas de trou. Vous voyez, avant, c'était comme ça. Voilà, oui. Ce sera plus sur l'aérodynamique où le DRS, l'aileron arrière, baissera, ne laissera aucun espace, juste se baissera. Et l'aileron avant aussi sera modifié, car avant, l'aileron avant, c'était un morceau de métal tout plat, carbone. Pratiquement. Ouais, de carbone, métal tout plat, avec des barres sur les côtés permettant de laisser passer l'air. Maintenant, les barres auront une sorte d'arrondi vers l'extérieur. Et l'aileron pourra s'ouvrir pour le DRS. Et les moteurs aussi seront nouveaux, il me semble, où justement, il y aura une plus grosse récupération de la batterie. C'est ce qui permet de donner un boost un peu à la voiture. Par exemple, quand tu mets le DRS et la batterie, cela te permet d'avoir un boost d'énergie, comme justement elle est hybride. Ça te permettra d'aller plus vite et de pouvoir du coup dépasser des voitures. Et
plus écologique aussi.
Aussi.
Ouais, et si jamais... Juste pour ce que tu dis, on va passer, comme je disais tout à l'heure, de 80% de thermique à 20% d'électrique, et là ça va être du 50-50 à peu près.
Ouais.
Autant d'électrique
que
de thermique.
Et je crois qu'on va avoir 30% de plus de récupération au freinage sur l'RS.
Ouais, voilà.
Mais là j'ai une question.
Oui.
Oui.
En fait, ça veut dire quoi le DRS ?
Alors le DRS, c'est, je sais plus exactement les lettres qu'elles veulent dire, mais en gros c'est un système. Donc l'aileron à la base c'est une pièce d'aérodynamique qui permet d'utiliser l'air qui arrive sur la voiture pour la plaquer au sol et gagner en
vitesse.
En vitesse de passage dans les virages, etc. Pour que la voiture adhère mieux. Et en fait, ça fait que par contre l'air tape dessus et ça freine la voiture en ligne droite alors qu'elle a pas besoin d'aérodynamisme pour aller vite. Et donc le DRS, c'est qu'en ligne droite tu peux l'activer et l'aileron s'ouvre, donc il y a plus d'aileron, l'air passe à travers et du coup il y a moins de frottement avec l'air, il y a moins de traînée aérodynamique et tout.
Ouais, j'ai un peu compris. En gros, c'est pour laisser passer l'air.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour pas qu'il tape contre la voiture et que ça perde
pour vitesse. Pas que ça la freine.
Exactement.
Moi, je veux juste rajouter que je trouve que la voiture 2026, elle va ressembler beaucoup à la voiture de Formule I.
Moi, j'ai juste une question pour ceux qui connaîtraient la F1. Quel est votre pilote préféré ?
Ah, Charles Leclerc, dans mon cœur.
Pourquoi ?
Alors déjà parce qu'il est, bon, j'allais dire français, il est monégasque, mais il parle français, etc. C'est un pilote français. Chez Ferrari, et j'adore Ferrari. Il a jamais été premier champion du monde. Jamais champion du monde. Il a déjà été deux fois deuxième, je crois, du championnat du monde. Mais voilà. Alors cette année, c'est un peu plus compliqué pour Ferrari, mais c'est vraiment un pilote qui, même dans les interviews et tout, il est sympa et voilà. C'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie en lui-même et qui pilote bien, qui est dans une écurie que j'apprécie, et voilà.
Moi, mon pilote préféré, c'est Isaac Hadjar, parce que je trouve quand même que déjà en F2, il était très très performant. Bon, sur le dernier Grand Prix, malheureusement, il a perdu son titre pilote de pas beaucoup. Et aussi, là, je le trouve très performant chez Racing Bulls, du coup, c'est son écurie. C'est un pilote français, et le truc positif que je suis très content pour lui, normalement, en 2026, il passe chez Red Bull, une des meilleures écuries de F1.
Moi, du coup, mon pilote préféré, enfin, est-ce que c'est possible d'en avoir deux ?
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Bah, j'aime beaucoup Charles Leclerc et aussi j'aime bien aussi Pierre Gasly parce que, en fait, quand j'ai vu le résumé du Grand Prix Monza 2020,
Regarde que les résumés. Hein.
Et du coup, j'ai bien aimé et je trouvais que j'étais content de le voir gagner parce qu'en plus, c'est un Français et du coup, c'est pour ça qu'il fait partie de mes pilotes préférés et qu'en plus, il joue dans une écurie française. Alpine.
Juste pour finir un tout petit truc sur 2026. En fait, pourquoi il y a tous ces changements ? C'est parce que la FIA, c'est l'organisation qui s'occupe
Fédération Internationale Automobile.
Ouais, voilà. Et en fait, ils trouvent qu'il n'y a plus assez, et c'est parce que les téléspectateurs le disent aussi, il n'y a plus assez de spectacles, entre guillemets, avec toutes les voitures qui vont à la même vitesse, en gros, et moins de dépassements, etc. Donc ça, c'est moins impressionnant. Et donc, en fait, ils ont globalement rajouté de la vitesse pour rajouter des dépassements, enlever de l'aéro pour que les voitures aillent moins vite en virage et que du coup ça rajoute des batailles. Et ils ont fait des voitures globalement un peu moins efficaces parce que un peu plus petites, les pneus aussi sont plus fins, un peu plus basses même en hauteur, etc. Et donc voilà, dans le but de faire plus de spectacles et de redonner un second souffle à la F1, quoi.
Aussi, moi je voulais rajouter que du coup en 2026, nous aurons une nouvelle écurie, Cadillac. Et aussi Audi qui va reprendre Quicksilver. Oui. Les pilotes de Cadillac, normalement, ce sera Sergio Perez et Valtteri Bottas. Donc, ça promet, je pense. Sergio Perez, quand même, qui a de l'expérience, c'est chez Red Bull. Et chez Audi, nous aurons, je suis plus sûr, je crois, on a Nico Hülkenberg.
Ouais.
Et toujours Gabriel Bortoletto. Donc, voilà, Audi qui a racheté Quicksilver.
Du coup, ma question, c'est que vous avez parlé de F1 et de F2. Ma question, c'est combien il y a de F machin ? Et c'est quoi la différence avec... c'est quoi leur différence, en fait, entre elles ?
Bon, en gros, la F1, c'est la catégorie reine. Donc, c'est le championnat du monde que tout le monde regarde. Et ensuite, il y a les sous-catégories qui descendent en chiffres.
Voilà, et du coup, nous avons la F2 où c'est où Isaac Hadjar a fait ses débuts. Souvent, c'est par là que les pilotes commencent. C'est des voitures plus petites où ils n'ont pas de batterie. Donc, ils ont un truc en moins à gérer. Beaucoup moins rapide. Je crois que leur vitesse de pointe, c'est 300 km/h, pas plus. Alors
contre
qu'une
360 F1, en F1.
Voilà, une F1, c'est 360. Et aussi, nous avons la F1 Academy, où c'est que des femmes. Parce que, justement, dans ce sport automobile, il n'y a pas de femmes en F1, en F2 et en F3.
Il y a une femme française qui nous fait de l'espoir, quand même.
Aussi. Ah oui, elle a pas gagné.
Elle va gagner la F1 et
la Mercedes, je crois. En plus.
Je connais plus son nom. Elle est chez Mercedes.
Rouge, les gars.
Ouais, je m'en veux.
Mais le nom de toutes les équipes. Et la seule femme, vous la connaissez
pas. Mais ouais, je m'en veux.
Je vous coupe les micros.
Non, j'ai regardé une interview d'elle la semaine dernière.
Moi aussi. C'était avec Hydro. Moi, j'avais vu. Mais
oui.
Moi aussi.
Je crois que cette émission passionnante, captivante, génialissime, bref, vous avez compris la couleur, touche à sa fin. Je remercie chaleureusement tous les membres de la Web Radio, c'est-à-dire Noémie, Coralie, Théo, Caïs, Laurine, Evan, Robin, Antoine P, Antoine M, Mathéo, Noralou.
Ainsi que Lilou.
Bon, d'accord.
Et ainsi que notre rédactrice en chef de cette émission.
Ainsi que toutes les personnes de News FM qui vont nous aider. Madame Bénara, Madame Perrotin, Madame Rousseau et bien sûr Soumia. Sans qui ce podcast ne pourrait pas exister.
Merci beaucoup.
Merci à tous et à la prochaine.
Ouais. Merci. Au revoir. Ensuite, au prochain épisode. Au revoir.